Hola, ¿qué tal, señor? ¿Le puedo proponer un sombrero?
Sí.
¿Es para regalo?
Sí, pero por favor, ¿cuánto es?
Shufa, Sidi. Shufa, Dek Burra.
Bleti, bleti. Bah, shukra.
Would you like to buy a cap, sir? Special price for you.
Oh, really?
Uh-huh.
Thank you.
Kit de conversation à 6000. L'indispensable pour comprendre et être compris.
Comment comprendre et être compris? Comment apprendre une langue étrangère? Quelle méthode, car il n'y a pas que la méthode assimile, quelle stratégie devrais-je développer pour être fluently in English ou parfaitement francophone si ma langue première est le lingala ou le fond? Un livre, un seul, la Bible des professeurs de FLE, la didactique des langues étrangères de Pierre Martinez, aujourd'hui professeur émérite de l'Université Paris 8 et dont l'ouvrage remporte un succès non démenti depuis 1996. Bonjour Pierre Martinez.
Bonjour Pascal.
Ces jours-ci sort la 9e édition de cet ouvrage publié dans la collection Que sais-je. Est-ce que c'est ce qui s'appelle une référence ?
Ouf, je ne voudrais pas commencer par là. Je voudrais surtout dire qu'il faut démystifier un petit peu le domaine de la didactique. La didactique, elle existe depuis, un de mes collègues a dit, 5000 ans. Je crois que c'est même plus.
Mais alors comment définir la didactique ?
Alors,
parce que ce n'est pas le mot qu'on utilise le plus couramment au quotidien.
Écoutez, il y a une théorisation, c'est vrai, une théorie, à partir de l'enseignement des langues. Mais l'idée de base, c'est d'aider à faciliter une appropriation. C'est-à-dire, on a un apprenant, on a une langue, et l'idée du didacticien, c'est de trouver les meilleurs moyens de faciliter, d'aider l'apprenant à se repérer, se retrouver dans cette langue inconnue.
Didactique, étymologiquement, ça veut dire propre à instruire.
Absolument. Un petit mot grec qui n'était pas utilisé dans ce sens, bien sûr, en Grèce. Même si, encore une fois, j'insiste là-dessus, le domaine a une très longue histoire. Il est évident que les besoins sociaux ont poussé très très vite les institutions, mais aussi les sociétés, à créer des lieux où on pouvait apprendre, par exemple à commercer. Ça a été le cas, bien sûr, au temps des Grecs et des Romains de l'Antiquité classique. Ça a été le cas pendant tout le Moyen-Âge. On a l'impression que la mondialisation est quelque chose de récent. Il est évident qu'elle n'a fait que s'accélérer et s'élargir, mais qu'elle existait déjà dans des temps qu'on va dire immémoriaux.
Donc votre livre, Pierre Martinez, n'est pas du tout une méthode pour apprendre une langue étrangère, mais plutôt un ouvrage pour réfléchir sur le contexte global, familial, politique, social, dans lequel un individu apprend une autre langue que sa langue maternelle ou première.
Oui, vous touchez le point fondamental. C'est une base, ce que vous venez de dire. Et à partir de cela, on va avoir un domaine scientifique qui cherche de plus en plus loin à intégrer des éléments de compréhension et, je le répète, de facilitation, parce que la didactique est à la fois une théorie et une pratique, où elle vise à des pratiques qui soient les plus efficaces possibles.
Donc cela dépasse la grammaire, la linguistique, le bon usage, etc. etc.
Bien entendu. Quant au bon usage, ça va être un domaine tout à fait limité de la pratique et de la théorie didactique. Mais en ce qui concerne la grammaire, les règles de fonctionnement de la langue, il est évident que dès le départ, on a eu ce souci de mieux les comprendre et de mieux les expliquer. Les premières méthodes sont des méthodes qu'on appelle grammaire-traduction. En gros, on part de ça, effectivement. On part de cette idée qu'il y a des règles de fonctionnement et puis qu'il faut traduire. Et en gros, l'activité porte sur la littérature. C'est très important dans les textes classiques. Une grammaire explicite, c'est-à-dire, vous voyez traditionnellement, on écrit au tableau des règles et on les fait répéter, par exemple. Et puis l'écriture. L'écriture beaucoup plus que l'oral. Ce qui est paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, les marchands, très tôt dans l'histoire du commerce international, créent sinon des écoles, du moins des lieux où on va enseigner à négocier, à commercer. Et c'est probablement beaucoup plus par l'oral que par l'écrit que cela passe. Mais, si vous permettez, il y a une tradition un peu scolastique, notamment au Moyen-Âge, où on enseigne les langues avec une méthode rigide. En gros, l'idée, c'est de se baser sur les textes importants. On a des gens comme Ibn Rushd, Averroès, vous le savez, qui vont commenter Aristote, par exemple. Donc, on va travailler sur la philosophie, la littérature, etc.
Donc ça, c'est le passé, c'est le monde d'avant.
Voilà.
Votre livre a déjà 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 25 années ?
Énormément de choses et ça m'a obligé à faire 9 éditions parce que tous les 3 ans à peu près, j'éprouvais le besoin de modifier une partie de ce que j'avais écrit à la lumière des innovations, je n'ai pas dit des progrès, des innovations qu'on voyait apparaître. Alors, mes pires souvenirs sont d'avoir rencontré, par exemple, à Dakar encore il n'y a pas très longtemps, des jeunes gens adorables qui brandissaient mon que sais-je édition 1996 en me disant c'est pour moi une référence, alors que moi bien entendu je suis obligé de dire qu'il est largement dépassé.
En tout cas, vous lisant, même si le sujet est assez technique, j'ai compris pourquoi je parlais mal anglais.
Et vous voulez m'expliquer pourquoi vous parlez mal anglais?
Tout simplement, je crois, si je vous ai bien compris, c'est que on m'a imposé un modèle et qu'il fallait parler comme le prof ou écrire comme le prof.
Oui, mais là, vous vous limitez à une situation pédagogique et justement, on va voir dans la suite de notre conversation, je crois, qu'on est très loin de ce passé, qui pour vous n'est pas très très ancien quand même, où vous étiez dans une relation avec un enseignant. L'enseignant, c'est celui qui vous donnait des directions. Enseigner, c'est un joli mot, hein. Et ça veut dire faire signe, donner des signes dans une direction. Mais on n'en est plus là du tout. On parlera, je
aujourd'hui,
suppose...
Aujourd'hui, c'est l'apprenant hein, qui vous intéresse.
Alors voilà, pardonnez-moi aussi pour ce jargon. On dit apprenant parce qu'élève, c'est quelqu'un qui est inscrit dans une école. Un apprenant, c'est quelqu'un qui est dans une posture, dans une attitude d'apprentissage. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'on n'est plus dans cette relation enseignant-apprenant. On est bien évidemment dans des apprentissages qu'on qualifiera tout à l'heure d'informels, si vous voulez.
En tout cas, si je parle mal anglais, quelques mots de français existent dans la langue anglaise. Et ça, c'est parfois rassurant. Nouveau titre du duo de Wet Leg, Chaise Longue. Okay. Chaise longue de Wetzlaig sur RFI, chaise longue, ça s'appelle la méthode répétitive, je crois, Pierre Martinez. Votre livre, La didactique des langues étrangères, est une référence, on l'a dit, mais c'est aussi une réflexion sur un aspect de l'enseignement qui a pris beaucoup d'ampleur, me semble-t-il, ces dernières années. Alors, pourquoi ? Parce que le monde est vaste et qu'il est important de lutter contre le monolinguisme en marche ?
Justement, là est le paradoxe. Le monde s'élargit, mais la multiplicité des langues, elle, risque de se réduire. D'abord, des langues disparaissent. Et puis, évident, on ne va pas en parler trop longuement aujourd'hui, mais qu'une ou deux langues l'emportent largement sur les autres. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est ce globish que tout le monde parle, ou anon, ça dépend. Mais surtout, les choses évoluent. On pourrait avoir, j'en montrerai quelques directions si j'en ai le temps avec vous, on pourrait avoir une évolution rapide des situations. J'ai enseigné en Corée et au Japon il n'y a pas très longtemps, et il est évident que l'anglais est largement le véhiculaire utilisé par les jeunes notamment, mais quand même, par exemple le mandarin, dans d'autres secteurs de l'Asie de l'Est, de Bahia, Indonésia, commencent à prendre de l'ampleur et qu'on les entend ou qu'on les lit. Beaucoup, on les lit tout simplement sur les affiches des restaurants, sur les enseignes, etc. Alors, ça existe aussi en Afrique de manière très étonnante. Je parlais de Dakar tout à l'heure et c'est vrai qu'il m'est arrivé dans certains quartiers de voir des affiches entièrement en mandarin.
Alors, comment faire pour que cela change rapidement, si je prends vos termes?
C'est très difficile. Ce n'est pas une question de méthodologie ou de méthode. C'est même pas, je me permets d'aller un peu fort là-dessus, une question de politique linguistique. On ne peut souvent pas grand-chose contre des courants souterrains qui animent les gens, et particulièrement les jeunes, ça va de soi. Je prendrai l'exemple du coréen et du japonais. Très étudiés en France, les sections à l'INALCO, à Strasbourg, etc., les universités que je connais bien, sont très importantes. Pas du tout parce qu'il y a une politique linguistique active. NHK World n'émet quasiment qu'en américain. On n'entend pas de japonais sur cette merveilleuse chaîne. C'est tout à fait désolant d'ailleurs. Et les jeunes sont férus de manga, d'animé, etc. C'est très difficile d'aller contre cela.
Donc ça s'appelle une influence culturelle, cela,
oui,
plutôt qu'une politique linguistique.
Oui, mais souterraine, vous voyez, et qui ne relève pas des institutions. Alors, ce n'est pas le jeu, enfin, c'est en partie le jeu que joue, bien sûr, la francophonie, qui reste, par exemple, en Asie, toujours la langue chic. Et en Afrique, bien entendu, une langue très, très, très estimée. Mais c'est plus le fait de mode, c'est vrai, peut-être cela va-t-il s'inverser, et puis de moyens que se donnent les gens, et notamment, je le répète, les jeunes, d'apprendre ces langues.
Alors ces réflexions, Pierre Martinez, rejoignent une des remarques que je trouve assez essentielles dans votre livre « La didactique des langues étrangères », qui est la question « Qu'est-ce qu'apprendre une langue ?» Et derrière cette question assez simple, il y a une complexité, et vous faites le distinguo entre apprendre et savoir. Qu'est-ce que savoir une langue?
Je vais partir de savoir, oui. Savoir, je reprends une définition classique d'un linguiste américain, Himes, c'est savoir une langue, c'est s'en servir dans différents contextes sociaux, c'est-à-dire différentes situations, à différents niveaux, registres, et pour résoudre différents problèmes. Apprendre, c'est une langue lente co-construction, si vous voulez. On est face à cette langue, il y a ce qu'on appelle une médiation, qui peut être le professeur. Entre la langue et vous, il y a le professeur, comme vous le disiez tout à l'heure. Pas que le professeur, j'y ai insisté. Ça, cette co-construction, justement, on essaie de la cerner de mieux en mieux. On a des outils pour cela. Je ne sais pas si notre propos ira jusque-là, mais je donne juste un exemple. L'imagerie médicale permet, à l'heure actuelle, de savoir à quel moment il y a un blocage, une inhibition, dans un processus ou de compréhension ou d'expression. C'est-à-dire qu'on arrive à voir à quel moment, je vais le dire vulgairement, c'est quand le cerveau se bloque. Vous voyez donc qu'on a des outils qui vont permettre maintenant d'aller beaucoup plus loin déjà sur ce domaine qui était approchée, certes, mais par des moyens qui étaient peu scientifiques, à vrai dire.
Alors que savoir, là, on n'a pas d'instrument pour savoir la langue.
Là, on a des moyens, bien sûr, des tests, et nous sommes dans une société, dans une époque aussi de certification, de mesure, de règne de la quantité, c'est sûr. Mais très honnêtement, j'ai beaucoup de doutes sur ces outils, non pas en termes, je dirais, de pratiques sociales. On en a besoin pour savoir qui doit faire, qui doit remplir tel emploi ou qui doit passer dans telle classe. Mais plus, de manière plus complexe, comment ça se passe humainement? Si vous voyez un film, je pense à un film Drive My Car, un film japonais qui vient de sortir, il y a une scène de négociation extrêmement complexe à décoder, où rien n'est dit, mais tout est dit. Et les silences sont aussi importants que les moments où l'on parle. Donc, vous me contredirez peut-être, mais je ne vois pas où le silence est évalué dans les tests, dans les conversations, dans les entretiens d'embauche. Le silence est d'or, dit-on. Ce n'est pas vrai dans une classe où l'idée, c'est de faire parler la langue, justement. L'élève qui apprend dans sa tête et ne parle pas est peut-être meilleur que celui qui parle et qui dit n'importe quoi. Alors ça nous amène à une notion intéressante que je ne vais pas développer aujourd'hui, qui est celle du profil d'apprenant. On a des profils extrêmement différents, à la fois dans l'apprentissage et dans la pratique sociale.
Mais cela suppose que l'enseignant s'adapte au profil de ses apprenants.
Alors, en a-t-il la capacité quand dans la classe, il y a 70 élèves, comme dans beaucoup de pays, où le système éducatif ne permet pas autre chose? Et puis, on n'a pas besoin d'aller très loin pour savoir qu'en France, 30 élèves dans la classe de langue dite vivante, si vous divisez ça, le temps de cours, une heure, une classe, un prof, par le temps de parole, vous allez voir que ça ne donne pas grand-chose.
L'oral, l'apprentissage par l'oral, Pierre Martinez, est-ce que ça n'est pas une petite révolution quand même de ces dernières années?
Pas de ces dernières années. Il y a des pratiques très anciennes qui coexistent. D'abord, même dans les méthodes classiques, traditionnelles, si vous circulez dans beaucoup de pays, vous entendez ce qui se passe dans l'école. Si vous êtes dans la rue, vous entendez les élèves qui répètent. C'est de l'oral. Il répète comme un chœur. C'est presque un chant choral. Ça, c'était de l'oral. Et l'oral, il a toujours existé. Dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, celui des marchands de l'Antiquité, il est évident que c'était par l'oral qu'on passait.
Quand je parlais d'oral, je parlais aussi d'audiovisuel. Alors, vous savez que RFI développe des méthodes et des exercices pour les apprenants en français à partir de la radio et avec notamment une série bilingue intitulée « Parlez-vous Paris ».
Parlez-vous Paris.
Il y a 213 marches en tout.
Descendez au fond des catacombes.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Montez en haut de la tour Eiffel.
Waouh, magnifique.
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Apprenez à déguster le vin.
Fruiter des notes de cassis.
Et découvrez le mode de vie des Parisiens.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Avec mes invités étrangers.
Oui, bien sûr.
Dans notre série Parlez-vous Paris.
Venez.
Parlez-vous Paris sur le site de RFI Savoir, avec des exercices et des quiz pour perfectionner son français.
Parlez-vous Paris, le talisman brisé ou encore les voisins du 12 bis, oui. Ce sont des séries proposées par RFI Savoir pour apprendre le français. Oui. Est-ce qu'écouter la radio rentre dans la didactique des langues, Pierre Martinez?
Oui, bien entendu. Et puis, loin de moi, je ne voudrais pas être mal compris, loin de moi l'idée d'exclure. Vous savez, il y a eu un moment dans les années 80, avec l'approche communicative, où on a fait ce qu'on appelle de l'éclectisme. C'est-à-dire, on piquait un peu partout, de manière tout à fait incohérente parfois. Un de mes collègues a dit, c'est du grand n'importe quoi, des éléments. Alors, la radio, le film, etc., entre la bande dessinée, entre bien évidemment dans cet arsenal ou cette panoplie. C'est pas la question. La question, c'est celle de la cohérence pédagogique. Il faut donner une ligne directrice aux apprenants. Il faut leur dire, ça, c'est un élément de ton apprentissage. Profites-en. La mobilité, c'est un élément de ton apprentissage. Profites-en. Etc. Il faut lui ouvrir l'esprit et de pas le fermer sur ce qui se passe dans la classe, ce qui est fondamental. À l'heure actuelle, en tout cas.
Mais quelle est la méthode, Pierre Martinez, qui a, grâce à vos yeux, qui est le plus en vogue aujourd'hui dans cet ouvrage, La didactique des langues étrangères? Vous parlez de didactique réticulaire. Est-ce que c'est cela, la modernité?
Alors là, vous m'amenez à avancer une hypothèse de travail qui est loin d'être vérifiée, mais qui a l'air de se développer et qui a été accélérée par la récente pandémie. C'est-à-dire une méthode d'approche du processus d'apprentissage qui passe par plusieurs éléments. Il y en a 3 ou 4, rassurez-vous, ce ne sera pas un cours. D'abord, les apprentissages informels par rapport aux apprentissages institutionnels. C'est-à-dire, comme je viens de l'expliquer, que l'enseignant doit être ouvert à toutes les formes d'apprentissage. Ceci en fonction des profils d'apprenants, on l'a dit. La deuxième idée, c'est qu'il y a une géopolitique linguistique. C'est-à-dire, par exemple, une francophonie qui se développe et qui offre énormément d'outils, que ce soit les vôtres, je suis ravi de les connaître, mais aussi ceux de l'AUF, de l'OIF, de la Fédération internationale des professeurs de français, etc. Filinfo, il y a une quantité de plateformes, de sites, hein, ou de ressources. Je pense encore aux campus numériques qui sont vraiment extraordinaires. Je me rappelle avoir vu récemment celui de Phnom Penh. La fois précédente, il y avait des ordinateurs partout. Et la dernière fois, il n'y avait plus d'ordinateurs. Parce qu'on est dans la mobilité. On est dans l'ubiquité, vous savez comment on dit. Les apprentissages peuvent se dérouler partout. Donc les ordinateurs ne sont plus sur les tables. On prête des tablettes aux apprenants.
Ou des iPhones.
Bien sûr. Et ça, c'est merveilleux.
Donc c'est cela la didactique réticulaire, c'est l'idée d'une mise en réseau de tous les moyens possibles et imaginables pour apprendre.
Là, il faut que je complète un petit peu quand même. Si vous voulez, en 4 mots, l'idée de départ, c'est qu'on va convoquer toutes les informations qu'on peut avoir sur l'apprenant et l'environnement d'apprentissage. Alors dans mon petit que serait, je n'ai pas pu développer, mais j'ai développé ailleurs. J'aurais plaisir à ce que le lien soit donné. J'ai un ouvrage en libre accès de 2018. À ce propos, l'idée de base, c'est que toutes ces ressources peuvent être liées aux connaissances, aux neurosciences, ce que j'ai appelé les NBIC, ce qui s'appelle les NBIC, nanobiotechnologie, sciences cognitives et informatiques. Ça, c'est beaucoup plus large que ce qu'on vient de dire. Par exemple, des données sur la fatigue, sur la capacité cognitive, sur le temps passé sur un exercice, sur une localisation des difficultés. Et ça, vous pouvez le savoir parce que l'informatique le permet, le numérique le permet. Alors ça, c'est le premier point. Si vous permettez, le deuxième point, ça va être qu'on va mobiliser tout ce qu'on sait sur l'apprenant et ses difficultés sur une plateforme. Le troisième point, c'est qu'on va dégager un modèle qui lui convient mieux. Il est tel genre d'apprenant, il aime bien la grammaire, on va le pousser de ce côté-là. Et puis le quatrième point, c'est qu'il va y avoir un parcours d'apprentissage qui est complètement repéré. Alors j'indique dans mon petit que sais-je que c'est extrêmement sujet à caution et à controverse, parce que c'est évidemment un contrôle des apprenants qui nous mène assez loin.
En tout cas, cette révolution passe par de la haute couture faite pour l'apprenant.
Absolument.
Pierre Martinez, sans faire la révolution, toutes les semaines, Lucie Bouteloup apporte sa pierre à la compréhension de la langue française, avec parfois des expressions bizarres. C'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Vous causez dans les bureaux, vous causez au micro, à moi, à Pierre Martinez, et aujourd'hui à Cantona.
Décidément, on aura tout entendu. Pas du tout, Pascal. Je ne parle pas à Eric Cantona, non.
Ah.
Je parle à la cantonade. Bon, vous me voyez venir. Parler à la cantonade, c'est l'expression sur laquelle je reviens aujourd'hui avec Jean Pruvot. Mais au fait, c'est quoi la cantonade?
Parler en criant.
Moi, je pense que c'est quand on parle de manière soutenue. Je sais pas, le mot, il dirait qu'il vient d'un rang élevé.
Cantonade, ça me fait penser à la cantine. Ça veut dire qu'on parle à la cantinière.
Moi, cantonade, ça me fait penser à riz cantonné. Et cantonné, dans le riz, bah, y a beaucoup de riz, donc c'est peut-être parler beaucoup.
Parler à la cantonade, ça veut peut-être dire parler de nourriture.
Cantonade, peut-être que c'est un mot ancien. Et quand on dit parler à la cantonade, c'est parler à l'ancienne.
Alors Jean, pour les enfants, Ça reste assez obscur, cette expression, parler à la cantonade. Faut dire impossible de la comprendre tant qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une cantonade.
Bah oui, alors, il y a des mots qui commencent de la même manière, hein, cantine.
Canton.
Et canton.
Le canton, le canton, cette petite division administrative qui peut regrouper plusieurs communes.
Exactement.
Canton, cantonade.
Et en fait, il y a un point commun, c'est le coin. C'est comme ça qu'on disait en italien. Et donc, ce mot cantonade comme cantine vient du mot coin. Alors, pour cantine, on ne comprend pas toujours, mais c'est parce que c'était dans le coin qu'on mettait la réserve. C'est dans le coin qu'on a mis le coffre où il y avait la réserve d'alimentation. Mmh. Et ensuite, cette cantine est partie à l'armée. Alors, la cantonade, c'est aussi dans le coin.
C'est le coin de la D'ailleurs, rue, le quartier.
Oui.
C'est un peu l'idée du canton. C'est-à-dire que c'est quelque chose de circonscrit.
Quand quelqu'un prenait la fuite au Moyen-Âge, on disait qu'il baillait la cantonade, c'est-à-dire au coin de la rue. Hop, il disparaissait et partait très vite.
Et ça a aussi donné le verbe « se cantonner ».
Oui, bien sûr. Étymologiquement, c'est se mettre dans son coin, ne plus bouger.
Oui, rester dans un endroit limité.
Oui, c'est ça.
Donc, on passe de l'angle du coin en italien, mais aussi en provençal. Là, on est au XVe siècle. Hein.
Oui, tout mot italien se retrouve presque toujours en provençal et après passe en français. Donc, ça fait vraiment partie d'un mot du sud. Et donc, le mot est passé ensuite dans le vocabulaire du théâtre grâce à tout ce qui se jouait en Provence. Molière hein, a commencé en Languedoc.
Alors, justement, au théâtre, qu'est-ce que c'est la cantonade ?
Alors, au théâtre, c'est ce qui se trouve dans les coulisses, et donc derrière les rideaux, à droite et à gauche.
C'est la place privilégiée.
En fait, c'est derrière les décors, et plus largement dans les coulisses. Et on voit Fénot qui dit « on entend un bruit de voix ». Cantonade droite, vous voyez, donc là, c'est presque le vocabulaire
Donc la cantonade
précis.
De chaque côté de la scène.
Eh bien oui.
Et puis, on a parlé à la cantonade.
Eh bien oui, alors parler à la cantonade, c'est-à-dire à un personnage qui n'est pas vu des spectateurs.
Ça donne C'était un une indication là. Scénique.
Oui, c'est ça. Et évidemment, ça oblige aussi l'acteur à parler du côté des coulisses, à droite ou à gauche.
C'est quand l'acteur doit s'adresser à quelqu'un qui n'est pas sur scène, en
fait. C'est ça. Et puis, l'expression est passée dans le langage au départ cultivé. Maintenant, bon, c'est beaucoup plus général. C'est presque le vocabulaire un peu courant, enfin, quand même un peu lettré. Et parler à la cantonade ou lancer des invectives à la cantonade, c'est sans s'adresser à un interlocuteur précis. Hein. Parfois, c'est aussi une manière d'obtenir une réponse plus large. Hein. On parle à la cantonade. En anglais, d'ailleurs, hein, y a une formule qu'on a essayé de traduire en français, qui est l'any casting, any cast. C'est-à-dire lancer un peu n'importe qui, anywhere, n'importe où. Et on l'a traduit, les commissions de terminologie, par un envoi à la cantonade, et c'est dans le domaine des télécommunications.
Alors, vous parliez des Anglais. En Espagne, on dit aussi parler aux quatre vents.
Oui, c'est très joli. On a aussi cette expression. Hein. Alors, les Néerlandais disent « déconner dans l'espace ».
Oui, c'est très péjoratif tout de suite.
C'est amusant, remarque, parce qu'on a tous comme ça.
Alors
déliré.
Que parler à la cantonade, c'est pas du tout péjoratif. C'est vraiment l'idée de s'adresser au plus grand nombre. Tout comme vous, Jean, merci d'être venu vous adresser à tous les auditeurs en général de RFI. Je rappelle que comme vous êtes un auteur extrêmement prolifique, vous avez récemment fait paraître un nouvel ouvrage qui s'intitule « Les mots de l'école » et qu'il est paru chez Honoré Champion. Merci Jean.
Merci beaucoup Lucie.
Et puis à très bientôt.
À bientôt.
Merci à tous les deux et me voilà donc autorisé, Pierre Martinez, à dire à la cantonade que l'on peut lire votre ouvrage « La didactique des langues étrangères » qui est donc pour les profs de FLE, on est d'accord, mais qui donne quand même des pistes de réflexion sur ce que doit être l'enseignement d'une langue étrangère, quelle qu'elle soit, et sur l'évolution justement de ces apprentissages. « La didactique des langues étrangères » édité au PUF dans la collection « Que sais-je ?» de Vivois, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, et nous nous retrouvons, eh bien, demain.